dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamadou Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, l'impact de l'insécurité dans le secteur de l'éducation au Mali. Dans le cercle de Youarou, la majorité des écoles sont fermées. Une situation qui aggrave la pauvreté, réduit les opportunités d'emploi et freine la capacité des communautés à se développer. C'est aussi l'avenir des milliers d'enfants privés de leur droit à l'éducation qui est menacé. À suivre le reportage de Macky Tall, l'un de nos correspondants au Mali, et l'analyse d'Amadou Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'éducation au Mali. Nous irons ensuite au Burkina Faso où la désinformation est devenue un sujet de préoccupation. La diffusion de fausses informations est une véritable menace dans ce pays confronté à des crises multiples. Le fait marquant de la semaine, c'est le lancement demain 29 janvier d'un passeport de l'Alliance des États du Sahel par le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui quittent officiellement la CDAO. Nous en parlerons avec Sekou Tangara, directeur de la télévision Africable. Nous parlerons enfin des graffitis qui tapissent de plus en plus les murs de la capitale économique ivoirienne. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'informations et de découvertes dans le Sahel. Rendons-nous donc dans le centre du Mali où la crise sécuritaire porte un coup dur au secteur de l'éducation. C'est le cas dans le cercle de Youarou où la majorité des écoles sont toujours fermées. Avant la crise sécuritaire, les enfants du cercle bénéficiaient pourtant d'une éducation de base de qualité. Regardez et écoutez ce reportage de notre correspondant Macky Tall à Youarou.
Dans le cercle de Youarou, sur les 58 écoles du centre d'animation pédagogique, seules les écoles de la ville sont fonctionnelles depuis bientôt 7 ans. La crise sécuritaire a durement affecté le secteur. Pour Bodé Dambélé, secrétaire général de la division de Youarou du syndicat national de l'éducation des bases, il est impératif de trouver une solution.
Aujourd'hui, sans savoir que les jeunes la sont nécessaires. Donc, c'est l'école des masques. Ces hommes armés sont tous des moyens. Donc on peut les démasquer, trouver un terrain d'entente pour permettre à ces enfants vraiment d'aller à l'école. Parce qu'on est en train de les priver de leur droit.
La seule préoccupation des parents d'élèves, c'est de voir les enfants retourner à l'école. Issata Wangaraba est parent d'élèves à Youarou.
L'éducation a une grande importance. Nous aimerions voir un jour tous nos enfants retourner à l'école. Car l'avenir des enfants, c'est l'école.
Fifi Sangari, habitante à Youarou, lance un appel aux autorités.
Nous avons besoin que le droit de nos enfants soit respecté dans tous les cercles. Seules les écoles de la ville fonctionnent. Nous lançons un appel aux autorités pour le retour de tous nos enfants à l'école dans le cercle.
C'est pour cette raison que Amba Société, président du comité des échanges scolaires, lance un appel au gouvernement pour la réouverture des écoles fermées.
Aujourd'hui, seules les écoles de la ville de Youarou fonctionnent. Toutes les autres écoles restent fermées, ce qui peut augmenter la délinquance. C'est un cri de cœur que nous lancions au gouvernement pour la réouverture des autres écoles, afin de minimiser la délinquance.
Nous avons cherché à avoir la réaction des autorités administratives et locales, mais elles n'ont pas encore réagi à nos demandes. Macky Tall pour VOA Afrique, Youarou.
Merci beaucoup Macky Tall. Macky Tall que nous retrouvons tout de suite à Youarou au Mali. Bonsoir Macky Tall.
Bonsoir Oumfa.
Alors, on vient de suivre votre reportage dans lequel vous dites que seules les écoles de la ville de Youarou sont fonctionnelles depuis bientôt 7 ans. Alors Macky Tall, est-ce qu'il y a toujours des attaques contre les écoles dans la région ou alors il s'agit simplement de la peur que les parents ont et les enfants d'aller à l'école? Et est-ce que est-ce que c'est parce que les enfants ont déjà déserté la localité, les enseignants aussi?
Bon, je ne dis pas ça. Écoutez, dans le cercle de Yuwaru, à part la ville de Yuwaru, toutes les autres localités sont occupées par les groupes armés. Donc, ils sont maîtres du terrain. Au préalable, après l'attaque de Yuwaru en 2018, le 25 janvier exactement, et donc ces groupes armés se sont attaqués directement aux écoles, plus précisément dans la commune de Ndoujiga. L'école déjà a été brûlée, les mobiliers, les effets, et encore dans la commune de Biberetama, à Dogo. Donc l'école de Dogo a subi le même cas. Et dans cette même commune, l'école de Yerere a subi exactement le même cas. Et donc, ces groupes armés, au lieu quand même de s'attaquer aux enseignants sur place à l'époque, on leur a demandé tout simplement de plier bagages et quitter et dégager, quitter ces zones. Donc, dès lors, les enseignants ont été redéployés dans les différentes localités de l'Académie d'enseignement de Mopti à l'époque. Et donc, vous voyez, mais à l'heure où nous vous parlons, on ne peut pas dire que ces écoles ont subi quand même d'attaques parce que les groupes armés sont toujours là-bas, il n'y a pas eu de négociations, rien n'est fait. Et donc, les enseignants, on leur a demandé de quitter, ils ont quitté.
Donc, les enseignants sont partis et les élèves, comment est-ce qu'ils font?
Bon, les élèves sont quand même utilisés par les parents, par les travaux champêtres. D'autres sont, je dirais, dans la délinquance, la mendicité, etc., etc.
Merci beaucoup, Makital, pour ces précisions. Alors, pour analyser la situation, retrouvons à Bamako, Amadou Koulibaly. Il est secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base au Mali. Bonsoir, Monsieur Koulibaly.
Bonsoir.
Alors, on vient de suivre la situation dans le cercle de Yuwaru. Mais globalement, M. Koulibaly, quel est l'état du secteur de l'éducation au Mali et comment est-ce que la crise sécuritaire affecte ce secteur?
La situation de l'école au Mali, surtout dans les zones menacées, notamment, il y a suivi l'intervention d'un des Sénégaux qui parle uniquement de Yuwaru. Il y a effectivement Yuwaru, mais il y a d'autres localités du centre, notamment il y a Douanzan, il y a Mopti même, il y a Panyagara, il y a d'autres localités comme Kidal, Gao et Tombouctou. Effectivement, aujourd'hui, la situation est critique dans ces différentes régions, ça il faut le dire. Si je prends l'exemple, par exemple, le cas spécifique de Yuwaru dont vous avez fait des interviews à certains. Et si nous regardons à Yuwaru, il y a 57 écoles fermées présentement. Et les écoles qui ont été ouvertes, comme quelqu'un a eu à le dire, ce sont les écoles qui se trouvent à Yuwaru ville. Notamment, c'est 9 écoles qui sont ouvertes. 9 écoles seulement qui sont ouvertes. Et au niveau de Tunkere Koumbe, il n'y a que 2 écoles ouvertes. Donc, si vous imaginez, dans l'ensemble même de l'académie de Tenenkou, parce que Yuwaru relève de l'académie de Tenenkou, dans l'académie de Tenenkou, il y a 158 écoles fermées actuellement. Et sur les 158 écoles fermées, l'État n'a pu que réouvrir 11 écoles. Et je précise, 9 pour Yuwaru et 9 pour Tunkere Koumbe. Donc, voilà la situation. Et l'insécurité qui est en train de poser problème dans le secteur de l'éducation actuellement au Mali.
Alors, il y a donc beaucoup d'écoles fermées, comme vous le dites. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation, à la fois pour les enseignants que vous représentez et pour les élèves?
Bon, c'est la situation que ça représente par rapport à nous, les enseignants, d'abord. C'est catastrophique parce que s'il faut que l'enseignant ne peut pas aller dans sa localité pour enseigner, et ça c'est un problème. Et l'enseignant lui-même en tant que tel a quelque chose sur sa conscience et rester à la maison sans travailler et continuer à prendre l'argent de l'État. Et pourtant, nous les anciens, nous avons demandé à l'État de faire des efforts pour pouvoir sécuriser les zones pour que nos anciens puissent retourner aller travailler. Par rapport aux conséquences concernant nos apprenants qui sont les élèves, ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, vous partez à Yuwaru et environnant, les enfants sont dans les champs, ils sont en train de faire les travaux champêtres. D'autres même
sont partis du côté des groupes armés. Donc ça pose énormément de problèmes, ça a tellement de conséquences négatives et sur les enfants et même sur les enseignants. Donc l'État doit prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse ensemble trouver une solution avec ces groupes armés pour que nous puissions envoyer nos enfants à l'école pour que nos enseignants puissent reprendre leur travail correctement.
Oui, justement, vous appelez l'État à prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que les autorités maliennes ont pu faire jusqu'ici dans le cercle de Yuwaru et de manière générale dans les zones frappées par l'insécurité? Et comment est-ce que vous jugez les réponses apportées jusqu'ici par l'État?
Bon, il faut que les uns et les autres comprennent. L'État ne fait que de son mieux. Et effectivement, l'État a déployé des moyens. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut le dire. Et par exemple, les mesures prises par l'État là où ils n'ont pas pu recouvrir, ils n'ont pas pu chercher les groupes armés, ils ont redéployé les enfants dans certaines localités. Certains enfants, je dis bien, certains enfants, les anciens aussi ont été redéployés dans les zones où il y a la sécurité. Tout simplement dire à l'État de continuer, de fournir des efforts pour que cette école malienne, au niveau de ces zones d'insécurité, puisse être, c'est-à-dire vraiment, ces écoles-là puissent être une réalité. Je donne un exemple, les sons Yuwaru. Kidal, par exemple, moi je viens de quitter Kidal personnellement. Je suis parti à Kidal le 13 novembre et j'ai fait un mois, 15 jours à Kidalville. J'ai été jusqu'à Tinesako, Anetif et autres, mais les écoles étaient fermées. Mais les anciens ont accepté de venir parce que l'État a mis des gros moyens. Et je vous dis, là-bas, dans la région de Kidal, il y a une sécurité totale. Et toutes les écoles, pratiquement à 80%, sont ouvertes au niveau de Kidal. Donc, encourager également le gouvernement de continuer à trouver les voies et moyens pour que l'école malienne puisse sortir dans cette question de sécurité dans notre pays.
Donc, alors, l'État fait donc les efforts, comme vous le dites. Mais est-ce que vous, au niveau du syndicat, est-ce que vous avez d'autres pistes de solutions? Qu'est-ce que vous proposez pour reconstruire et améliorer durablement le secteur éducatif, notamment dans les zones affectées par le terrorisme?
Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une question de moyens. Et les moyens de l'État sont limités. Comme vous le savez, depuis que la crise a commencé, le Mali a des problèmes sur le plan budgétaire. Et du fait, la solution, c'est quoi? Il faut ramener tous les enfants dans des zones sécurisées. Mais là, même si l'État arrive à le faire, mais les parents aussi, il y a un problème qui va se poser du côté des parents. En faisant, peut-être qu'ils vont se plaindre, on a enlevé nos enfants, on les a amenés ailleurs. Il y a toutes ces problématiques aussi qui sont là. Donc, la solution est réelle. Avant la sécurisation de ces zones, c'est de redéployer les enfants dans les zones sécurisées. Que les parents acceptent d'envoyer leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école en attendant la résolution définitive de ce problème de sécurité.
Merci beaucoup, Amadou Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base au Mali. Merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique dans le cadre de l'émission Focus Sahel. Un grand merci également à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet dans nos différentes plateformes digitales. Je rappelle que cette émission est diffusée en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci à tous. La suite, c'est dans un instant.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Après le Mali, cap sur le Burkina Faso, un pays où les rumeurs, manipulation de l'information, la rapidité et l'étendue de leur propagation via l'Internet s'est accrue ces dernières années. Il s'agit d'une menace qui inquiète non seulement les professionnels de l'information, mais aussi les pouvoirs publics. Reportage de notre correspondant Gilles Dasda.
Une démonstration d'unité entre le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et l'ambassadeur de Chine en octobre. Une fausse information avait affirmé que les deux pays avaient rompu leurs relations. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré et son hôte ont qualifié cette rumeur de sabotage diplomatique. Sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp, les fausses informations constituent une menace constante. Jordan Meda est le directeur éditorial de la plateforme burkinabé de vérification des faits, Faso Check. Il distingue deux types de fausses informations. La mésinformation est partagée sans intention de nuire.
À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là, à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenus faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée.
À l'Observateur, Paul Galin, des principaux quotidiens du Burkina, le journaliste Hugues Sama explique que l'équipe du journal prend ce problème très au sérieux.
Et même un œil averti peut souvent en tout cas s'y tromper. Donc ce que l'Observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier.
Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré avait disparu de la scène publique pendant quelques jours en juin, des vidéos fabriquées et des spéculations ont envahi les réseaux sociaux. La vérité a été établie par des vérificateurs de faits compétents. Mais ce type d'incidents peuvent être dommageables selon les experts.
Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait, par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème.
Meda affirme que les puissances mondiales rivalisent d'influence dans le Sahel en promouvant leur propre narratif. Mais il précise qu'elles ne sont pas seules.
Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils les diffusent et les gens y croient.
Les analystes affirment que le conflit en cours au Burkina est facteur d'intensification de la propagation de fausses informations. Selon Jordan Meda, les avancées technologiques risquent d'amplifier la portée et l'impact de la désinformation, rendant les efforts des vérificateurs d'informations encore plus cruciaux. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Voilà, on passe aux faits marquants de la semaine. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettront en circulation leur passeport commun demain, 29 janvier, date de leur sortie de la CEDEAO. Les citoyens de la Confédération AES, Alliance des États du Sahel, détenteurs des anciens passeports, arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité, peuvent les faire remplacer par de nouveaux passeports de l'AES, a fait savoir dans un communiqué le président en exercice de l'Alliance, le général Assimi Goïta, président de la transition au Mali. Les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration, ajoute le communiqué. Alors, pour en parler, retrouvons à Bamako Sékou Tangara. Il est le directeur de la télévision Africable. Bonsoir Sékou Tangara. Alors, nous allons essayer de joindre Sékou Tangara, directeur de la télévision Africable, pour parler du lancement du passeport de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, un lancement prévu demain, 29 janvier, un an après la décision de ces pays de sortir de la CEDEAO, la Communauté des États économiques donc de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ces passeports, donc selon un communiqué du général Assimi Goïta, qui est le président de la transition au Mali, mais qui préside également l'Alliance, l'AES, donc ce passeport les passeports actuels de la CEDEAO avec le logo de la CEDEAO pourront être remplacés par ceux de l'AES. Également, ceux qui ne peuvent pas faire ce remplacement à l'immédiat pourront conserver leur passeport jusqu'à expiration. Mais quand ils vont renouveler ces passeports, donc, ils auront droit au passeport avec le logo de l'AES. un cap donc franchi dans la décision de ces pays de partir de la CEDEAO après plus d'une année de tumulte avec ces pays, avec les pays de la CEDEAO, après notamment les coups d'État enregistrés au Burkina Faso, au Niger, au Mali, des coups d'État qui ont été condamnés par la CEDEAO, qui avait infligé, rappelons-le, des sanctions à l'encontre de ces pays, et des sanctions qui sont mal passées, hein, parce que les dirigeants de ces pays ont donc décidé de sortir de l'organisation, condamnant une intrusion de la France, notamment dans les affaires internes de la communauté sous-régionale, la CEDEAO. Et donc, pour parler de ce lancement, le lancement de ce passeport, nous allons essayer de joindre à Bamako Sékou Tangara, qui se trouve avec nous. Bonsoir Sékou Tangara.
Bonsoir Mohamedou.
Voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour le lancement de ce passeport? On imagine que c'est un événement qui sera célébré, peut-être pas en grande pompe, mais il y aura des événements spéciaux. Alors, qu'est-ce qui est prévu et que sait-on à l'heure actuelle des moyens d'acquisition de ce passeport, notamment de son prix, de sa validité et de toutes les informations pratiques que vous pouvez avoir autour de ce passeport?
Par rapport à ce qui est prévu, il faudrait noter tout simplement que le Burkina Faso peut être considéré comme le principal point de célébration, sinon de marqueur, hein, pour cette sortie officielle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a deux jours, les chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali, du Niger, s'étaient réunis à Ouagadougou. Ils ont fait le bilan des six mois sur le plan sécuritaire, le plan politique. Ouagadougou, point de célébration. Pourquoi? Parce qu'également aujourd'hui, hein, il y a eu des manifestations un peu partout sur le territoire burkinabé, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso. Beaucoup de Burkinabés sont sortis pour réitérer leur soutien aux autorités quant à cette sortie-là. Sur l'autre pan de votre question, quelles vont être les modalités d'acquisition de ces passeports? Ce que l'on en sait, c'est que ça va être les mêmes modalités que les passeports classiques, les passeports CEDEAO. Ça va être le même type de renouvellement et il n'y aurait pas de frais supplémentaires à en croire les sources sécuritaires qui ont eu à communiquer sur cet aspect-là.
Alors, Sékou Tangara, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ce passeport apporte de nouveau par rapport au passeport de la CEDEAO et est-ce qu'il y aura un impact sur la circulation des ressortissants des pays de l'AES?
Oui, par rapport à cette question-là, je crois que la Confédération de l'AES avait déjà fait une offre en décembre en permettant la libre circulation des ressortissants de la CEDEAO sur l'espace AES. Même si la CEDEAO n'a pas officiellement réagi à cette offre-là, on peut peut-être estimer la réciprocité au cas où la CEDEAO l'entreverait d'un bon œil. Sinon, le cas échéant, ça va peut-être être des accords bilatéraux entre pays membres de l'AES et pays voisins qui militent encore au sein de la CEDEAO. Qu'est-ce que le passeport va apporter de plus que le passeport CEDEAO? Peut-être, voilà, le prestige, hein, le fait de dire l'AIS a son nouveau passeport, sinon qu'également qu'en termes de libre circulation des personnes et des biens, bien, les autorités de l'AIS plaident pour cela. Elles pensent que ce sera une réalité, malgré souvent les pratiques anormales, les tracasseries le long des corridors. La libre circulation des personnes et des biens, pensent les autorités de l'AIS, va être une réalité qui va être renforcée au jour le jour au sein de l'espace AIS et éventuellement avec la CEDEAO si l'institution sous-régionale fait un retour positif par rapport à l'offre faite par l'AIS en décembre dernier.
Alors Sékou Tangara, vous avez parlé de manifestations aujourd'hui au Burkina Faso, mais là-bas au Mali, comment est-ce que les gens réagissent au lancement annoncé de ce passeport et de manière globale aux sorties, à la sortie du Mali et des autres pays de la CEDEAO? Et puis comment est-ce que dans l'opinion publique, dans les médias, comment est-ce que cela est vécu, comment est-ce que cela est perçu là-bas au Mali?
C'est un débat très très tranché, hein. C'est un débat des extrêmes. Il y a une première extrême qui pense que les autorités de l'AIS n'ont aucune légitimité pour intégrer, pour amener leur pays dans des décisions aussi historiques, aussi graves, par exemple, que leur sortie de la CEDEAO. Cette frange de population pense que parmi les 5 ensembles régionaux du continent, la CEDEAO était celle qui offrait le plus de garanties en termes de libre circulation des personnes et des biens. Ils font bien, ces Maliens, la comparaison par exemple avec l'Afrique centrale où, malgré le fait que des pays appartiennent à la CEMAC, la libre circulation des personnes et des biens n'est pas aussi effective qu'au sein de la CEDEAO. Alors ça, c'est d'un côté ceux qui sont contre la sortie de la CEDEAO. De l'autre côté, ceux qui sont pour la création de l'AIS rétorquent les mêmes arguments. Ils disent, certes, les autorités actuelles n'ont aucune légitimité pour sortir, faire sortir leur pays de la CEDEAO. Mais ils se disent, rappelons-nous qu'en 1975, lorsque nos pays intégraient la CEDEAO, ceux qui l'ont fait n'avaient aucune légitimité, puisque c'était également des présidents qui étaient venus à la faveur de coups d'État. Donc autant pour l'adhésion à la CEDEAO, les initiateurs n'avaient aucune légitimité, autant peut-être pour la sortie également, il n'y a aucune légitimité. Et cette frange de Maliens vont même jusqu'à rééditer l'exemple de la Mauritanie. La Mauritanie qui avait quitté la CEDEAO au début de l'année 2000, mais qui l'a réintégrée. Il parle également de l'exemple du Maroc. Le Maroc qui, en 1986, avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine lorsque la République sahraouie occidentale avait été admise. On donne même l'exemple de la Grande-Bretagne par rapport au Brexit. Donc ici, au niveau de l'opinion, le débat, il est très, très tranché. On ne va pas dire que c'est un débat à mort, un duel à mort, mais les arguments des deux côtés fusent. Et l'avenir nous dira quelle est la partie qui va avoir le dessus sur l'autre.
Voilà, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. C'est Koutangara, directeur de la télévision Africable. La suite de Focus Sahel dans un instant. À présent, la note positive de cette édition. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est devenue une place forte dans le développement de l'art et de la culture urbaine en Afrique. Le graffiti, qui était à ses balbutiements il y a quelques années, est en plein essor. Un festival de graffiti a même été organisé là-bas du 9 au 19 novembre 2024. On voit tout cela dans ce reportage de Alexandrine Rolignon.
Auparavant, les Ivoiriens considéraient les graffitis avec dédain et les acteurs étaient passibles de poursuites judiciaires. Mais ce point de vue est en train de changer et les peintures murales de graffitis sont de plus en plus fréquentes sur les murs des villes. Des fresques murales imposantes et des graffitis complexes ornent désormais l'extérieur des hôtels internationaux et des grandes artères.
À Paris, les gens, ils vont nous regarder, ils sont blasés. Ils vont regarder quelqu'un peindre, ils vont être, encore un pollueur visuel, quelqu'un qui vient faire un truc, alors qu'ici, c'est généralement bien pris. Et moi, j'adore partager, moi, pour ma part, c'est pour ça que je parle aussi.
Les murs d'Abidjan attirent des artistes nationaux et internationaux. En novembre, des artistes de rue du monde entier ont convergé vers la ville pour la première édition du festival Ivory Graph Graffiti. Pendant 2 semaines, ils ont transformé des murs insipides en œuvre d'art de 300 mètres de long.
On a envie d'œuvrer pour notre pays et son développement culturel. Donc comme c'est le premier festival de street art en Côte d'Ivoire, on est assez fiers. On a la chance d'avoir parmi nous des gens qui ont une expérience. Au Sénégal, ils ont à plus de 15 ans de festival qui ont invité des artistes internationaux.
Dans les rues d'Abidjan, le travail des graffeurs ne passe pas inaperçu. Les passants admirent les artistes à l'œuvre et approuvent leurs efforts pour revitaliser le centre urbain.
C'est une belle initiative parce que quand il y a les graffitis sur le mur, et ça permet un peu de sensibiliser certaines personnes qui se permettent d'uriner sur le mur et faire de n'importe quoi. Et ça embellit aussi la ville.
Au-delà d'embellir la ville, la street art ou l'art de rue contribue aussi à faire connaître les artistes. Certains d'entre eux, comme Angelo Guessant, envisagent désormais de travailler sur la transmission de leurs arts en amenant d'autres jeunes à s'intéresser à l'art urbain.
Focus Sahel, Stop F1. Merci d'avoir écouté et regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver en ligne sur voafrique.com. À très bientôt.